Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi, 12 miliciens tués, une dizaine d'autres grièvement blessés et des maisons incendiées dans sept villages. Bilan des combats entre deux factions de la milice Codeco au nord de Bounia, en Ituri. Pompe des discordes, le contrôle de certaines localités pour rançonner la population. Dans le Kwilu, des parents d'élèves réclament la reprise des activités scolaires. Ils affirment que la suspension des cours porte un préjudice sérieux à l'avenir de leurs enfants. Notre invitée, c'est Madame Patience Cécile Mouli. Elle est point focal des associations féminines pour le développement de Béni au Nord Kivu. Elle avoue que 2020 était une année très difficile, surtout pour les habitants de Béni. Madame, messieurs, bonjour. En Ituri, 12 miliciens sont morts, une dizaine d'autres grièvement blessés et plusieurs maisons incendiées dans cet village. C'est lors des combats qui se déroulent depuis trois jours entre deux factions de la milice Codeco vers Nyangaraï, à environ 30 kilomètres au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Selon des sources locales, les deux parties se disputent le contrôle de certaines entités pour rançonner la population. Ces affrontements ont entraîné du coup le déplacement de nombreux habitants de la zone à Bounia. Le récit d'Isaac Remoyope.
C'est depuis le samedi dernier que les affrontements sont signalés entre les assaillants de la faction dénommée Bon Temple des Dieux, basée à Nyangaraï, et celle appelée Force contre la balkanisation du Congo, qui a son bastion à Lipri. Les combats se sont poursuivis jusque hier lundi vers Moubali. Selon des sources concordantes, les conflits de leadership et le contrôle de certaines barrières pour la collecte des fonds pour leur survie sont à l'origine de ces combats. Il y aurait plusieurs morts des deux côtés. Les bilans provisoires avancés par les services de sécurité et des 8 assaillants tués et 6 autres blessés dans les rangs de la faction Bon Temple des Dieux. Dans les camps adverses, il y a 4 morts et 5 autres blessés. Des sources locales déplorent également l'incendie des maisons, entre autres, au village d'Ngoto, Ritsi, Lipri, Ngadza et Kukia. Tous les occupants de ces habitations fuient dans les localités proches, dont Peti, Bambou et Kobu en territoire de Djougou. Les porte-parole de l'armée en Ituri indiquent que l'une des factions veut contraindre l'autre groupe à se désengager du processus de paix avec le gouvernement. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que les FARDC sont déjà déployés pour mettre en déroute ces miliciens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, 4 personnes ont été kidnappées, dont une déjà décapitée lundi soir par des hommes armés non identifiés dans la chefferie de Bouito, en territoire de Rutshuru, au village situé à environ 6 km de Kibirizi, un groupement des Matanda. C'est le deuxième cas de kidnapping enregistré depuis le week-end dernier, selon des sources locales. Le fonctionnaire délégué du gouverneur du Nord Kivu à Kibirizi dit avoir convoqué une réunion de sécurité d'urgence quant à ce. À Goma, une correspondance de Bernardine Diambou.
D'après nos sources sur place, ces 4 hommes sont tombés dans une embuscade d'hommes armés aux environs de 16 heures locales sur la route dans la forêt de Kitarara, non loin de Kabanda, alors qu'ils revenaient de leur champ. Leurs ravisseurs exigeraient déjà un montant de $3,000 américains avant leur libération, renseignent les fonctionnaires délégués du gouverneur à Kibirizi. Deogracias Kitabuire ajoute que ce matin, les éléments des FARDC ainsi que le jeune de Kibirizi en patrouille mixte ont retrouvé un de ses otages déjà décapité dans la brousse. Il s'agit d'un homme père de 5 enfants. Une réunion de sécurité a été urgemment convoquée ce matin à Kibirizi pour statuer sur ce drame qui refait encore surface. Selon nos sources, 3 autres personnes ont été blessées dimanche vers 17h locales par des coupeurs de route entre Kishishe et Kirima dans la même chefferie. Et le même jour, un autre motard a été kidnappé sur le même axe. Tout en appelant la population au calme, les fonctionnaires délégués du gouverneur demandent à celle-ci de collaborer avec les services de sécurité afin de dénicher ces hors-la-loi. Signalons que d'autres cas de kidnapping ont été rapportés il y a peu, notamment à Bunagana dans le groupement de Jomba, en chefferie de Bouisha dans le même territoire de Rutshuru. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu où la population de la région de Boutembo-Béni est appelée à l'unité pour notamment faire face aux massacres perpétrés depuis plusieurs années vivre une paix durable. Cet appel a été lancé par la délégation de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et la CENCO, c'est-à-dire la Conférence épiscopale nationale du Congo, au cours d'une messe dénommée « Messe pour temps de guerre et ou troubles graves » ce mardi à la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba à Butembo. Reportage à Butembo de Grâce Amzati.
En présence des autorités politico-administratives locales et de plusieurs centaines de fidèles, cette messe a été dite par l'archevêque de Bukavu et président des évêques des six diocèses de la région. Dans son homélie, Monseigneur l'archevêque François-Xavier Maroy a commencé par donner les objectifs de cette visite pastorale dans les diocèses de Butembo-Beni. C'est notamment compatir avec la population victime des massacres, la réconforter et prier avec elle pour demander une paix durable. Ainsi, il invite les fidèles non seulement catholiques, mais également d'autres confessions religieuses à l'unité, à l'amour et au dialogue pour surmonter ces défis. Il ajoute que la paix durable ne peut venir que de Dieu. D'où son appel également à tous les chrétiens à la foi comme celle d'Abraham afin de vivre cette paix durable. Interrogé, certains fidèles se disent réconfortés par cette prédication. Jean-Paul Katembo Siaipuma est l'un d'eux.
Il a été bien clair parce qu'il a précisé l'objectif de leur mission ici chez nous. C'est une mission de réconfort d'une part, à quête de la paix. Et nous sommes tout à fait réconfortés par ce message parce qu'il nous invite à dialoguer pour qu'ensemble nous puissions construire la paix.
Signalons que cette délégation des évêques va retourner à Beni le mercredi avant de se rendre à Bunia pour la suite de sa mission. Butembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, à Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu, des parents d'élèves exigent la reprise des activités scolaires. Pour certains d'entre eux rencontrés, la suspension des cours est en train de tuer l'éducation des enfants. Ils demandent aux autorités de faciliter le début des cours au début du mois de février prochain. Explication à Bandundouville d'Irène Mboma.
Qu'on ouvre les écoles, nous avons besoin que les enfants étudient parce que l'année passée, les enfants n'ont pas bien suivi les cours.
C'est comme ça qu'un parent s'exprime à Bandundouville pour exiger la réouverture des écoles en RDC. Selon lui, cette longue fermeture des activités scolaires constitue une violation des droits des enfants concernant leur éducation.
La convention relative aux droits de l'enfant nous dit que l'enfant a droit à l'éducation. Mais lorsque les enfants qui ont droit à l'éducation n'étudient pas, mais lorsque les enfants sont à la maison, donc ces droits sont violés.
Ces parents en appellent à la responsabilité de l'État congolais afin de prendre toutes les dispositions possibles pour que les cours reprennent et que tous les gestes barrières contre la COVID-19 soient respectés dans les milieux scolaires.
Si on dit que la deuxième vague du coronavirus est virulente, est-ce que nous savons en cas si la vague se termine? Du reste, c'est ça que vous voulez protéger pour l'école. Mais ceux qui sont à l'église, qu'on envoie au marché. Alors là, au marché, il n'y a pas de coronavirus, c'est mal à l'école. Moi, je pense que l'État doit s'assumer, mettre en place tous les mécanismes qui permettent à ce que les enfants ne soient pas contaminés pour que les écoles commencent à fonctionner. L'année passée, c'était juste des formalités. Cette année, on va recommencer avec des logement, date et on sait pas à quand. Donc ça, c'est tuer l'éducation d'enfants, c'est tuer aussi l'enfant. Début février, on doit commencer le cours.
Signalons que c'est depuis le 18 décembre dernier que les activités scolaires ont été suspendues en RDC dans le cadre de la lutte contre la propagation de la deuxième vague du coronavirus. Bandundouville, Irène Mboma, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, le programme de coopération internationale communale a lancé hier lundi le concours de la bande dessinée pour les villes de Goma, Beni et de Butembo. Selon le coordonnateur de ce programme, les jeunes bédéistes congolais dont l'âge varie entre 12 et 35 ans vont reproduire les dessins décrivant le fonctionnement de l'état civil 60 ans après l'indépendance de la RDC. Augustin Dimoubanzi affirme que cette activité est organisée en prévision du recensement général et en prévision également du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Il est au micro de Bernard Nyangi.
Le 60e anniversaire de la République démocratique du Congo pour son indépendance devrait être fêté l'année passée. Mais vu la situation sanitaire, ça a été difficile. C'est comme cela que c'était une activité de l'année passée qu'on vient de lancer maintenant cette année 2021 afin que la population dans les villes dans lesquelles nous sommes opérationnels soit informée de la manière dont ils se retrouvent dans l'administration de l'État civil. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va lancer l'appel à candidature que les jeunes devraient postuler afin que nous puissions ensemble valoriser nos villes. Donc le thème principal c'est « Soyons fiers de ce que nous sommes comme Kivusiens ». Et ces idées-là qui se relient à la naissance au décès et au mariage, qui sont les faits sociaux qui nous accompagnent durant toute notre vie. On veut tabler sur 35, les meilleurs dessins bien sûr. Goma 15, Boutembo 10 et Beni 10. On va faire une exposition RDC et ces mêmes dessins seront exposés aussi en Belgique.
Rappelons que le programme de coopération internationale communale est financé par la commune de Walouès-Saint-Pierre de la Belgique et mène quotidiennement ses activités en partenariat avec les services de l'État civil des trois villes de la province du Nord-Kivu. Autre nouvelle sur Radio Okapi, au Kasaï oriental, la société minière de Bakwanga annonce la récupération dans un bref délai de toutes les maisons occupées illégalement dans les cités des travailleurs et ses concessions spoliées à différents endroits. La MIBA justifie cette décision par la relance de ses activités. Depuis l'annonce de cette décision, plusieurs voix des autochtones s'élèvent pour contester la position de l'entreprise minière en Mbujimayi. Esther Dalafina.
La mise en demeure de la société minière de Bakwanga est adressée aux personnes qui construisent des maisons sur les concessions situées en face de la maternité appelée pépinière. La MIBA pointe aussi du doigt la parcelle du guest house de Kasaï sur l'avenue Lusambo en ville MIBA, de la portion des terrains situés entre la boulangerie MIBA et de l'auditorat supérieur militaire, ainsi que du terrain longeant la route d'accès à la porte Bozala et à la minoterie où plusieurs maisons sont déjà érigées par des particuliers. Ce n'est pas tout. La société minière annonce également la récupération dans un bref délai des maisons occupées illégalement dans les cités des travailleurs appelés Bodine comme au poste résidentiel. Toujours dans son communiqué, la MIBA fait remarquer à la population que cette action de récupération de son patrimoine sera organisée avec le concours des autorités politiques, administratives et judiciaires. Déjà quelques chefs traditionnels n'ont pas tardé à réagir. Certains contestent la décision de la MIBA. Nous venons d'apprendre que les autorités de la MIBA et les autochtones vont se retrouver l'un de ces quatre matins autour de l'autorité provinciale pour échanger sur les aspects qui les opposent. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Bukavu, un mort et un blessé grave. Bilan de l'écroulement d'un mur de soutènement d'une maison d'habitation sur l'avenue Sayo au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. C'était hier lundi après la pluie qui s'est abattue sur la ville. Sur décision du gouverneur de province, toutes les familles dont les maisons ont été endommagées sur l'avenue de l'ISGA doivent quitter les lieux en toute urgence. C'est ce que nous raconte à Bukavu Jean-Baptiste Ntonga.
Selon la société civile du milieu, la victime, un jeune garçon d'une quinzaine d'années, a été surpris pendant son sommeil. Le mur de soutènement s'est écroulé sur sa chambre. Il a été conduit dans une structure sanitaire où il a rendu l'âme de suite de ses blessures. Son père, lui aussi grièvement blessé, est interné à l'hôpital général de Bukavu. Une jeune fille d'une vingtaine d'années a été retirée des décombres dans un état de perte de connaissance. Le mur qui a causé ces dégâts présente encore un danger pour la population car il s'est écroulé à moitié. Déjà, plusieurs familles vivant dans quatre bâtiments en amont de l'université unique ISGA ont déménagé. La société civile de Bukavu condamne la légèreté du service de l'État qui octroie des titres fonciers sur des sites impropres à la construction. Mais aussi, les gens doivent prendre conscience en évitant d'acheter des parcelles sur des endroits dangereux. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Aux États-Unis, à la veille de l'investiture de Joe Biden, le centre-ville de Washington a des allures aujourd'hui de camps retranchés. Des dizaines de milliers de membres de la garde nationale sont déployés dans les rues du centre-ville. Une large zone rouge entièrement barricadée a été mise en place de la Maison-Blanche à la colline du Capitole où le président, tout nouveau président Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment demain mercredi. Dans la matinée. Les autorités chinoises et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, accusées d'avoir trop tardé à réagir au plus vite à l'émergence du coronavirus. C'est ce qu'indique en tout cas un rapport des experts indépendants qui sont dirigés par l'ancienne première ministre néo-zélandaise, Madame Helen Clark. Les accusations risquent de déplaire à la Chine alors que des experts de l'OMS sont à Wuhan pour enquêter sur l'origine de la pandémie du coronavirus.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Patience Sidamouli. Elle est point focal des associations féminines pour le développement en ville et territoire de Beni au Nord Kivu et nous fait le bilan de leurs activités de 2020 et des perspectives pour 2021. D'ores et déjà, elle avoue que l'année 2020 était très difficile, surtout pour les habitants de Beni. Elle s'entretient avec Marc Marofimbo.
Madame Patience Sidamouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Chez vous, au niveau des CAFET, comment vous avez évalué les activités pour l'année qui vient de passer?
Merci pour la question. Au niveau des CAFED, l'année 2020 n'a pas été facile suite aux différents événements que vous connaissez. Les tracasseries n'ont cessé, les violences, les guerres. Donc la situation a vraiment été très critique. Mais toutefois, nous sommes en train d'encourager nos membres qui, malgré tous ces défis-là, ils ont milité, ils sont en train de plaider pour la cause de la femme, de la jeune fille, de la femme et du genre en général, parce que nous plaidons pour les gens, nous prenons pour l'égalité, c'est hommes et femmes. Donc, si nous excluons les hommes, nous n'aurons pas raison en fait. Donc, elles sont en train de militer pour que la paix revienne. C'est vraiment notre souci idéal. Nous aurions souhaité un jour enregistrer 0 cas de viol, 0 cas de victimes, 0 cas de survivantes. C'est notre souhait pour que nous parvenions à un jour arriver à ce stade. Mais jusqu'à présent, bon, la lutte continue.
Et quels ont été les types d'activités que vous avez menées, par exemple?
Nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport aux différentes formes de violences qui existent, sexuelles, domestiques. Nous avons mené des plaidoyers auprès de différents camps militaires pour parler la cause de la jeune fille qui subissait beaucoup des événements malsains dans des camps militaires. Nous sommes en train de sensibiliser à la radio comment est-ce que la femme doit être écoutée. Nous plaidons pour la masculinité positive de la femme. En fait, nous avons introduit beaucoup de dossiers ça et là pour voir si la femme peut être écoutée. Nous attendons les résultats de cette année que nous commençons.
Alors, Madame Patience, quels sont les types de défis qui ont fait que vos planifications n'ont pas été réalisées telles que prévues?
Le défi majeur que nous avons rencontré, c'était la sécurité. Les moyens étaient limités parce que nous aurions bien voulu étendre les sensibilisations, les plaidoyers jusqu'au-delà de Beni, mais nous avons été limités par nos moyens. Certains endroits sont non accessibles, faute de routes, de certes agricoles, même les femmes qui sont là-bas ont fait faux. Il n'y a pas eu moyen de les accéder. Donc, les difficultés ont été néfastes au cours de l'année écoulée.
Vous avez évalué les activités de l'année passée. Vous avez aussi planifié les activités pour l'année 2021. Comment vous allez attaquer cette année? Avec quel type de motivation, quel type de projet, quel type de détermination pour y arriver?
En fait, monsieur le journaliste, nous n'allons pas briser les bras. Quoi qu'il arrive, malgré les sécurités, nous allons tenir. Mais nous aurions voulu que les sécurités cessent pour que nous travaillions dans des conditions qui sont vraiment les conditions normales. Mais jusqu'à présent, comme vous le constatez, les gens continuent toujours à fuir. Nous avons beaucoup de déplacés dans nos ménages. La paysanne de Beni, elle est d'abord même victime des atrocités. Il reçoit encore des déplacés, des guerres. On ne sait pas quoi faire. Mais cette année, nous sommes en train de planifier certaines activités qui pourra peut-être apporter un petit soulagement par rapport aux défis que nous sommes en train de rencontrer. Nous comptons travailler autrement au cours de cette année parce que nous avons constaté que plus nous sensibilisons sur le droit, on dirait que nous faisons maintenant l'évitation aux atrocités. Mais si aussi nous faisions aussi le verse, montrer à chacun ses devoirs, commençant par l'épouse, les enfants, les autorités, chacun à son niveau, si chacun pourrait d'abord connaître ses devoirs avant de réclamer un droit. Bon, on ne sait pas, peut-être que ça pourrait aussi nous aider à voir comment est-ce qu'on pourra réduire ta soipée au défi du moment.
Quel message d'encouragement faites-vous à ces femmes qui continuent à militer pour les droits de la femme en ville et territoire de Beni?
Nous n'avons qu'à les encourager, donc elles sont braves. Nous sommes en train de les encourager de continuer avec la lutte parce que plus nous luttons ensemble, plus nous pouvons changer quelque chose. Donc nous les encourageons toujours à continuer avec la lutte. Partout où elles sont, partout où elles nous écoutent, nous sommes unis ensemble. Donc qu'elles continuent là-bas, nous continuons ici. Et ceux qui sont ailleurs continuent ensemble, nous pourrons bousculer.
Madame Patience Sidamouli, nous vous disons merci.
C'est nous qui vous remercions.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Patience Sinamouli. Elle est le point focal des associations féminines pour le développement en ville et territoire de Béni au Nord Kivu. Elle s'entretenait avec Marc Marofimbo. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 12h20.